RCF.
J'ai décidé d'aller où le vent me pousse.
Ah, je sens que vous serez tout simplement génial.
Amuse-toi bien.
Ça me va.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre espace culture et détente de fin d'après-midi où, à défaut de soleil, on vous promet au moins un peu de chaleur humaine. Alors, sur le radiateur aujourd'hui, quand on est membre de la couronne britannique, on ne mène pas le même train que tout le monde au sens propre. Eh bien, Viviane Perret nous emmènera sur les rails royaux dans le rendez-vous Petite Histoire du mardi. Et puis, une jeune reine de beauté bien décidée à devenir comédienne humoriste dans le Londres des années 60, c'est Fanny Woman, une série à découvrir avec Pauline Harré. Elle aussi, elle va devoir remonter la pente après avoir connu le luxe, un nouveau départ, source de belles rencontres, et son auteur est avec nous pour nous le raconter. Bonjour Sandra Martineau.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Sandra, vous êtes maman de deux enfants, 21 et 19 ans, hein, si je ne me trompe pas.
Oui,
c'est bien ça. Vous êtes gestionnaire d'entreprise, également écrivaine, et après avoir commencé dans le thriller, vous venez de publier chez Ixo Petit Bonheur à tous les étages, un roman sensible et teinté d'humour qui fait tomber pas mal de préjugés sur les banlieues et qui est aussi une belle leçon de solidarité. On va le découvrir avec vous. Tout doux, Les Petits Bonheurs de Sandra Martineau, c'est parti.
Doudou avec Vincent Belletti.
Alors que je m'approche d'elle, la jeune femme se penche à mon oreille. J'ai au téléphone une personne qui prétend que la police est chez vous et que monsieur a des menottes. Mon sourire s'éteint instantanément comme une ampoule grillée. Mon premier réflexe, c'est de lui arracher l'appareil des mains. À l'autre bout du fil, la voix stridente de mon employé de maison se fait déjà entendre. Que se passe-t-il, Maylin ? Madame, madame, la police, partout dans la maison, rentre vite. Monsieur a des menottes, hurle-t-elle.
Voilà, la police est chez vous. Le choc pour Johanna, jeune maman habituée à vivre dans le confort d'un quartier résidentiel et qui va se retrouver obligée de déménager avec ses trois enfants dans une cité HLM. Alors, on va pas en dire plus hein, sur les raisons de ce changement de décor, hein, Sandra Martineau, mais je voudrais savoir tout de suite d'où vous est venue l'idée de ce roman. Vous avez regardé Blue Jasmine de Woody Allen, par exemple?
Ah non, pas du tout, non, non, c'est une histoire qui m'est venue, bon j'aime bien les paradoxes en fait, les changements de vie qui sont assez brutaux comme ça, et l'histoire de Johanna je l'avais un petit peu en fond d'esprit et j'ai voulu ajouter un petit peu de dynamique avec les quartiers,
oui.
Donc c'est pour ça que la cité HM est apparue dans mon imaginaire et que bah, l'histoire s'est profilée.
Et qui fait partie d'ailleurs, c'est un des personnages centrales aussi hein, de
sûr.
Votre dernier roman. On va revenir sur ce livre, mais auparavant un petit retour sur votre propre parcours. Vous êtes né dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc, un bac ES économie, des études de droit, puis de commerce international, et puis une passion au départ, la photo, qui vous a permis de réaliser deux expos. Qu'est-ce qui vous a tiré autant derrière l'objectif?
Alors en fait, derrière l'objectif, moi ce que j'aime, c'est la beauté des choses en fait. J'aime saisir l'instant, l'instant vrai. Et oui, effectivement, j'ai un œil très photographique. Et indirectement, c'est la photographie aussi qui m'a amenée à l'écriture.
Oui, comme forme d'expression.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je visualise énormément ce que j'écris.
Oui.
Et d'ailleurs, je ne sais pas écrire tant que je n'ai pas visualisé une scène. Et quelque part, la photo m'a aidée à apprécier tout mon environnement et aussi à le décrire d'une façon plus psychologique quelque part.
Ouais. Alors l'écriture justement, comment est-ce qu'elle est venue? Parce que vous allez décrocher un premier prix de nouvelles au lycée, pourtant vous n'avez pas continué dans cette voie tout de suite. Comment ça a fini par s'imposer chez vous l'écriture?
Alors c'était c'était un concours de nouvelles, donc à l'époque ça m'allait très bien, c'était quelque chose de court, donc ça me permettait de m'exprimer tout en restant sur un schéma assez rapide. Au fur et à mesure, en fait ça a démarré parce que j'ai écrit un scénario.
Oui.
J'ai écrit un scénario que j'ai envoyé à France 2 à l'époque. Il m'a dit on ne travaille pas avec les particuliers. Ah, me suis dit soit la télévision ne veut pas de moi, mais je réussirai à rentrer quelque part.
Oui.
Et du coup, cette histoire, je me suis dit, et si je la transformais en roman? Alors ça a été un premier jet que j'ai abandonné parce que je trouvais que finalement ça n'avait pas beaucoup de sens en soi sur cette idée. Et je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus original que j'ai largement abandonné aussi. J'étais en train de
donc m'essayer à l'écriture. Donc vous lancez des trucs et puis vous abandonnez et puis vous repartez sur autre chose.
Et je repars sur autre chose parce que j'ai eu un déclic. Ouais. Sur mon premier roman, je voyais une jeune femme aveugle qui ne maîtrisait pas son environnement. Et qui était face à un tueur en série, en fait. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, finalement, c'est ce style de livre que je veux écrire, en fait.
Alors, ce livre, justement, il est sorti en 2010. Ça s'appelait Confiance aveugle, l'histoire d'une jeune femme devenue aveugle après un accident qui ressent des scènes de crime alors que sa propre famille a été assassinée. C'est un thriller que vous allez écrire pendant votre première maternité. C'est pas trop perturbant d'avoir des idées de meurtre quand on va être maman?
Oui et non, parce que quelque part c'est des sentiments qu'il faut appréhender dans tout état de choses en fait. Mmh. Aussi bien la maternité c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose qui est aussi angoissant parce que vous avez ce petit être qui est en train de pousser à l'intérieur de vous ne savez pas ce qui va en être à sa sortie, vous avez hâte de faire connaissance mais en même temps vous êtes terrifié aussi. Et j'avais besoin d'extérioriser aussi ces sentiments justement par l'écriture finalement. Toute cette angoisse que j'avais de devenir maman, ça m'a fait du bien de l'écrire sous une autre forme. Parce qu'en fait, on le néglige suffisamment, mais il y a des mamans qui ne vont pas très bien du tout, justement, après la naissance. Et peut-être que j'y ai échappé parce que justement, j'ai réussi à évacuer tous ces sentiments d'angoisse.
Donc, traduire ces sentiments par l'écriture. En tout cas, c'est un thriller qui va être suivi de 5 autres titres. Alors, on peut citer Promotion en enfer, Les blessures du silence, Dernière escale ou même Le diable à la peau douce. Des romans où il est souvent question d'emprise, de manipulation, de mystère. Je sais pas en quoi ce style plutôt sombre vous inspirait à l'époque.
Peut-être parce que je m'intéresse beaucoup à la nature humaine et que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait différentes catégories d'êtres sur Terre. Certains qui étaient là pour faire le bien et d'autres pas vraiment. Ouais. Et à force d'étudier certains mécanismes, que ce soit dans mes entourages ou en extérieur, puisque du coup c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise je suis amenée à rencontrer quand même pas mal de gens. Et dans le passé aussi, je me suis rendu compte qu'effectivement, indirectement ou directement, il y a quand même beaucoup de manipulation. Les rapports humains sont quand même soumis à cette espèce de petite manipulation. Si je fais ça, tu fais ça. Si t'as pas fait ça, moi je ferai pas ça. Vous voyez, c'est même dans la famille, quelque part. Ouais. C'est si t'es sage, t'auras une sucette.
Ouais.
On est toujours sous un espèce de petit rapport qui amène à ce genre de choses. Donc après, il suffit de le diffuser différemment.
En tout cas, en 2022, changement d'éditeur et puis changement d'atmosphère avec ceci.
Dans le petit village de maintenant, Chloé hérite de la maison de sa grand-mère. Une grand-mère dont elle apprend l'existence alors même que cette dernière vient de mourir. Entre panne de voiture et hostilité des habitants, son séjour tourne au cauchemar. Mais il se pourrait bien que ce village soit la clé de son histoire familiale et la source d'un incroyable renouveau. Car il faut parfois changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Un roman de Sandra Martineau plein d'humour et de tendresse, d'où jaillit la plus belle des lumières. Librairie le 5 mai.
Voilà, alors c'est pas un conte de dessin animé signé Walt Disney, c'est la bande-annonce de votre promo. Donc pour changer de ciel, pour mieux voir les étoiles, publié chez XO. Alors c'est un livre plutôt optimiste, qui fait tomber avec humour certains préjugés, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à changer de registre, passer du thriller à ce genre de comédie?
Alors, c'est suite à des problèmes de santé en fait. Je me suis rendu compte que la vie m'offrait une seconde chance. Et que finalement, j'étais plus tout à fait à même de tuer des gens dans mes romans.
Donc, on avait marre là de tuer par procuration.
Non, je n'arrivais plus à fermer les placards, il y avait trop de cadavres. Donc c'était le moment de changer, de passer à autre chose.
Ouais. Et donc ce style-là, que vous allez poursuivre avec bonheur. Alors dans la même veine, vous allez publier ces petits bonheurs à tous les étages, toujours publié chez XO. On va en découvrir l'histoire dans quelques instants. Ce sera juste après une première page musicale que vous nous proposez, comme le font tous nos invités. Et vous avez choisi Francis Cabrel, Te ressembler. Alors vous nous expliquez pourquoi Cabrel et ce titre en particulier?
Alors, Cabrel, parce que Cabrel depuis toujours. Je crois que je n'ai pas été bercée que par lui, mais profondément. J'écoute Cabrel. Mon père m'a fait découvrir Cabrel quand j'étais enfant et je crois que c'est lui qui m'accompagne le plus régulièrement.
Ça commençait par quoi? La Dame de Haute-Savoie?
Oh oui.
L'encre de tes yeux.
Mais toutes ces chansons ont bercé mon enfance, en fait. Je connais les paroles par cœur. Et parce que Cabrel, voilà, un grand magicien, un grand poète. Qui oserait me dire à l'heure actuelle je n'aime pas Francis Cabrel ou je ne connais pas une chanson de Francis Cabrel. C'est du patrimoine musical français. Je veux dire, à lui seul, il y en a d'autres, bien sûr, mais à lui seul, il constitue quelque chose d'extraordinaire.
Eh bien, on va écouter Oui, je vous en prie.
Ah non, puis alors te ressembler, c'est un message, en fait, hein, quelque part. Moi, c'est aussi un message à mes parents parce que, quelque part, on est toujours différent de ses parents, mais on cherche toujours un petit quelque chose qui ferait dire tu vois, quelque part je te ressemble aussi.
Te ressembler, on écoute Francis Cabrel et puis on se retrouve tout de suite après pour plonger dans ces petits bonheurs à tous les étages.
T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir de jardin à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là. S'en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour de partir. Dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça, pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare. J'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre. Et j'étais tout le contraire. On s'est pas dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance. Quelquefois je me sens fautif, je regarde autour.
Te ressembler, c'était Francis Cabrel. Merci de nous avoir fait redécouvrir cette chanson, Sandra Martino. C'est vrai que je la connaissais pas, celle-là, dans le répertoire de Francis Cabrel. Elle est très agréable à écouter. Le choix qui ressemble à notre invité du jour, Sandra Martino, auteur de Polar passé au roman qui font du bien, dont le nouveau Petit Bonheur à tous les étages, qui est sorti le 11 mai dernier chez Ixo. Alors l'histoire, c'est celle de Johanna Baron, hein, c'est son nom, une jeune trentenaire, mère de 3 enfants, Victoire, Valentin et Arthur, un 3e enfant qu'elle a eu avec son nouveau compagnon, Laurent, qui est expert en finance, après une première union qui s'est mal terminée. Johanna, qui va donc mener une existence, on va dire, plutôt dorée, dans un milieu, il faut le dire aussi, assez superficiel. Et puis un beau jour, on l'a entendu, la police débarque chez elle. Qu'est-ce qui se passe exactement, Sandra?
Il se passe qu'en fait, elle ne connaît pas toute la vérité sur Laurent. Il lui a caché pas mal de choses et en même temps, elle ne s'est pas posé plus de questions sur ce qu'il faisait exactement. Et qu'un jour, tout ce passé le rattrape et les rattrape.
Ouais, c'est-à-dire qu'il avait fait des exactions, hein, on peut dire des escroqueries financières.
Je voulais pas le dire, mais bon.
On peut le dire, hein, dans ce roman. Hein. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est emprisonné. Alors, malheureusement, tsunami pour Johanna, qui menait une vie bien confortable, et bien sont saisies, la maison y compris, et elle doit emménager dans une cité HLM avec ses 3 enfants. Et là, vous allez l'entendre, c'est pas le même décor.
Je pose mon carton et j'attrape fébrilement les clés dans ma poche. La porte déverrouillée, je reste sur le seuil, les mains le long du corps. À première vue, le logement est propre. Pourtant, une boule d'acidité envahit mon ventre. Je me laisse glisser contre un mur en observant le minuscule salon sur ma droite. Comment allons-nous réussir à cohabiter sans nous marcher dessus, alors que nous venons de quitter une demeure de 300 mètres carrés? J'ai une pensée triste pour Arthur. Comment va-t-il s'épanouir ici? Et mes ados? Quels loisirs pourront-ils avoir dans cette cité? Je ne suis déjà pas sûr d'oser les laisser sortir seuls de cet immeuble.
Voilà, changement brutal. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, Sandra, c'est que cette précarité, Johanna l'a déjà connue dans le passé. C'est un peu un retour à la case départ aussi.
Oui, mais on oublie vite, en fait.
Oui.
Elle a vécu une telle vie de luxe et de confort, en fait.
Avant de rencontrer Laurent, elle était déjà un peu dans la précarité.
Elle était déjà en galère avant de le rencontrer, mais en fait, il lui a fait tout oublier. Et pensant que cette vie allait être éternelle, en fait... On laisse tout ça derrière et puis on n'a plus envie de regarder ce qui s'est passé avant.
Elle était un peu comme anesthésiée aussi dans cette vie mondaine avec ses pseudo-copines aussi. Hein. On le sent aussi.
Oui. Elle n'y trouvait pas sa place, mais on fait semblant. On fait semblant et puis on essaye d'avancer. On sourit quand on nous demande de sourire, en fait. On fait ça mondaine, même si au fond d'elle, c'est pas sa personnalité.
Alors cette nouvelle vie, il va falloir s'y habituer avec des enfants qui ne sont pas forcément très ravis du déménagement et du voisinage. Un homme pourtant va avoir très vite son importance, c'est Djibril Cherouti. Qui est-il, ce Djibril?
Alors Djibril, en fait, elle va vite découvrir que c'est le propriétaire de l'immeuble. Djibril est un homme assez charismatique, avec une musculature qui ne laisse
pas indifférente.
Voilà, tout à fait. Mais Djibril a des petites facettes qui sont pas forcément visibles au premier abord. Un jogging, des casquettes.
Ouais, c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que c'est un peu le caïd de la cité.
Bah en même temps, il a tous les atouts pour l'être, donc quelque part, oui, elle se laisse aussi berner parce qu'elle voit.
Comment ne pas perdre pied quand tout le monde vous regarde comme une étrangère, ce qui va être le cas de Johanna. En plus, elle s'appelle Baron, donc le titre Madame la Baronne dans le roman, elle est moquée par ses nouveaux voisins, surtout quand vos anciennes copines vous ont toutes laissé tomber. Eh bien, Johanna, elle va se trouver une alliée, plutôt une forte personnalité.
Madame Baron, je me retourne et découvre une femme corpulente à la peau d'ébène, vêtue d'un boubou africain multicolore et d'un turban bariolé. Je m'attarde un peu sur son visage, dont le maquillage m'intrigue. Son rouge à lèvres rouge vif détonne avec ses paupières peinturlurées en violet et ses joues rondes rosies par une sorte de fond de teint concentré à cet endroit. Oh, désolé, j'oublie de me présenter. Je suis Fatou, votre voisine de dessus. Comme je prépare toujours trop à manger, je vous ai fait des Tupperware. Je sais que ce n'est pas évident de cuisiner quand on est débordé. Soudain, le temps semble s'arrêter. J'ai l'impression de vivre un moment de grâce dans ce monde de brutes, un humain qui ouvre son cœur à un autre humain, ou plutôt à son frigo.
Voilà, Fatou qui va lui ouvrir sa porte et pas seulement celle du frigo. Cette solidarité, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien réelle dans ce genre de cité où c'est un petit peu imaginé? Vous l'avez ressenti vous-même, parce qu'il faut aussi le dire, vous êtes d'un quartier populaire, Sandra.
Oui, tout à fait. J'ai grandi dans un quartier populaire et j'ai ressenti la solidarité. Mes parents ont pu compter plusieurs reprises sur les voisins, qu'ils soient de l'immeuble ou ceux d'à côté, et inversement. Et à côté de ça, cette solidarité, on en a aussi parlé que trop peu peut-être, mais pendant le Covid, là où tout le monde s'accentuait pour aider aider les aînés et ainsi de suite, il y a aussi des quartiers où les enfants, les ados, les jeunes adultes se sont réunis pour organiser tout ça. Et moi-même, je l'ai pratiqué. Étant plus jeune, on avait des petits anciens qui étaient isolés, et avec ma copine de bâtiment, on allait en voir deux trois, puis on demandait s'ils avaient des courses à faire, on allait les faire. Ouais. Donc oui, cette solidarité, elle existe, mais on n'en parle que trop peu. Ouais. C'est quelque chose qu'on noie dans dans le reste de l'actualité qui concerne les quartiers, en fait. Ouais. Et on en parle vraiment que trop peu.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés qui entourent justement ces cités de banlieue. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, des préjugés qui vont tomber au fil des pages de ce roman. On se rend compte aussi que la solidarité, elle vient surtout des femmes.
Oui, parce que quelque part, les femmes sont aussi porteuses d'histoires et porteuses de messages. La communication passe énormément par les femmes. Je veux pas dénigrer la communication des hommes, mais elle est quand même beaucoup moins tournée vers l'autre. Et quelque part, la femme ayant plusieurs rôles en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, en tant que travailleuse, en tant qu'amie, c'est elle qui amène cette communication à s'ouvrir vers l'extérieur. Mmh. Et oui, effectivement, du coup, la voix est portée par les femmes.
Voilà, Fatou, excellente cuisinière aussi. Hein.
Exactement.
Ça aussi, ça met en appétit dans ce roman. Il y a beaucoup de préjugés, je l'ai dit, qui vont tomber au fil des pages de ce livre. Une renaissance aussi pour Johanna qui va finir par se retrouver malgré toute une série d'épreuves qu'elle traverse. C'est ça aussi qui fait la force de ce livre. On va en reparler tout à l'heure. Mais le mardi, Sandra, eh bien, on replonge aussi dans l'histoire des petits faits insolites que Viviane Perret nous raconte avec son talent habituel. Et aujourd'hui, quelques jours après le couronnement du roi Charles, eh bien, on va prendre Le train en marche.
Tout doux, complément d'objet.
Et bonjour Viviane. Alors aujourd'hui, vous allez nous mettre sur les rails en nous embarquant à bord d'un train royal, celui de la reine Victoria. Mais d'abord, pourquoi privilégier le Royaume-Uni plutôt qu'un autre pays pour parler de train ?
Bonjour Vincent. D'abord parce que l'Angleterre a été le premier pays à se doter de lignes de chemin de fer. On le doit à un mécanicien anglais, George Stephenson, véritable inventeur de la locomotive qui créa en 1825 la première ligne ferroviaire ouverte au public à usage commercial. Et puis la deuxième raison, c'est que la monarchie britannique a élevé l'utilisation du train royal au rang d'art ferroviaire. La première monarque à inaugurer un train a été la reine Victoria en 1842.
Et alors, est-ce que le Queen a apprécié le voyage ?
Tout à fait. Dans son journal intime, Victoria a jugé l'expérience très agréable. La reine a rapidement disposé d'un train royal qui stationnait à Calais. Il ne servait que pour ses déplacements sur le continent. Sur le sol britannique, on aménageait simplement un train pour la circonstance.
Ben voyons, et j'imagine que le cahier des charges était assez lourd.
Et oui, il y avait des conditions de confort et de sécurité à respecter, ainsi qu'un habillage du train. Précisons qu'à l'époque de la reine Victoria, comme en France d'ailleurs, l'équivalent de la SNCF n'existait pas et que différentes compagnies se partageaient le réseau ferroviaire. À chaque changement de réseau, le train changeait de locomotive, mais la reine restait dans son wagon royal.
Voilà, tant qu'à faire. Et j'imagine aussi que ses successeurs n'ont pas renoncé à ce privilège ferroviaire.
Tout à fait. Édouard VII, le fils de la reine Victoria au début du XXe siècle, se fit même construire un train encore plus luxueux que celui de sa mère. Il y ajouta tout le confort moderne et même l'électricité.
Ceci dit, voyager dans un train royal, ce n'était pas forcément de tout repos. Et je crois qu'un souverain en a fait les frais.
Ben toujours le même Édouard VII, en avril 1900, il était assis tranquillement dans son royal wagon, parti de Calais pour Bruxelles, lorsqu'il se fit tirer dessus par un anarchiste. Le gamin, car il n'avait que 15 ans, grimpa sur le marchepied et tira deux coups de feu à travers la fenêtre sans le blesser. Mais cette histoire ne freinera pas ses successeurs. Le train que fit réaliser George V par le London Midland et Scotland Railway est le plus connu et le plus beau des trains royaux britanniques. Il sera également largement utilisé par George VI entre 1936 et 1952.
Je suis émerveillée par votre accent, Viviane. Que sont devenus ces trains, finalement ?
Ceux qui ont survécu au démantèlement sont à présent au musée du chemin de fer. Mais la tradition a perduré et un train royal, moderne, mais a priori beaucoup moins luxueux, est toujours à la disposition de leur majesté.
So wonderful. Merci Viviane pour cette chronique royale. Et comme vous êtes toujours très en train, bien on vous retrouvera la semaine prochaine.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà Viviane qui a raccroché les wagons. Alors avec cette histoire de train, c'est vrai qu'on est dans le luxe total, hein, Sandra Martineau, pour en revenir à votre roman « Petit bonheur à tous les étages », celui qui a connu Johanna au début du livre. Mais en fait, de luxe, hein, vous êtes plutôt féroce, et ça qui est drôle, parce que c'est aussi très drôle. Hein, il y a des petites touches très drôles dans votre livre. Quand vous évoquez les anciennes copines de Johanna avant sa déchéance, je vous cite « des pintades brochées et parfumées ». C'est quand même pas très tendre.
Non, non. En même temps, elles ne sont pas tendres avec elles, donc je ne voyais pas pourquoi je me serais limitée à juste. Non, j'avais vraiment envie de faire des belles caricatures, donc oui.
Ouais. Un milieu où la charité se traduit aussi en forme de déduction fiscale. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce qu'on le voit dès le début. Hein. Ouais. C'est des opérations financières finalement tout ça.
Ouais. Lorsqu'elles se réunissent pour dire à qui elles vont, à qui va bénéficier en fait l'association, c'est pour savoir en fait à combien pourra se monter la déduction fiscale. C'est quand même une forme, c'est quand même une forme assez bizarre de pratiquer la charité. Sandra Martineau, on va continuer à parler de votre nouveau roman Petit bonheur à tous les étages, qui est vraiment un petit bonheur à lire. Et puis on évoquera aussi une jeune femme qui ne se laisse pas abattre non plus dans la série. Coup de cœur, ça sera avec Pauline Arré. À tout de suite.
Tout doux, une émission de Radio Notre-Dame et RCF, présentée par Vincent Bellotti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invitée du jour, Sandra Martineau, écrivaine dont le dernier roman Petit bonheur à tous les étages vient de sortir aux éditions XO, l'histoire d'une jeune mère de famille obligée de déménager en HLM après l'emprisonnement de son compagnon pour escroquerie. Un nouveau départ qui va être l'occasion de faire tomber pas mal de préjugés sur les banlieues. Alors justement, un préjugé qui a la vie dure, c'est de dire qu'il n'y a que des personnes immigrées venues du Maghreb qui viennent y habiter. Or, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des personnes âgées qui n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Et c'est le cas de Raymond et d'Yvonne dont vous parlez dans votre roman. Peut-être un mot pour présenter ces deux personnages, Sandra ?
Oui, c'est des personnages qui sont là depuis quasiment, du moins pour Yvonne, qui sont là depuis quasiment la construction des immeubles et qui ne se voyaient pas changer de quartier pour tout l'heure du monde.
Yvonne un peu raciste aussi, hein, pas cariâtre, hein, pas commode, hein, peut-être Daniel, on va dire.
Un petit peu Tati Daniel, c'est un peu à ça que j'ai pensé quand je l'ai réfléchi. Et mais elle cache bien son jeu quand même. Ouais. Et on va pas tout dire parce qu'on voilà, il faut garder des surprises. Ouais. Mais avec un tempérament quand même, ouais, on aurait plutôt envie de se débarrasser de la voisine plutôt que de l'accompagner à la base, hein, à des rendez-vous médicaux par exemple. Ouais. Mais oui, sacré caractère.
Ouais. Et Raymond présentez-nous Raymond. Raymond
est retraité, il n'a pas forcément la possibilité de vivre auprès de ses enfants et de ses petits-enfants. Mmh. Et Raymond se retrouve dans cet immeuble avec une idée en tête. Mmh. Une idée en tête de séduire la belle, la belle retraitée en fait du rez-de-chaussée.
Ouais.
Il n'y a plus que
mais
ça
il n'ose pas.
Mais en fait, il n'ose pas parce que elle a son bout de caractère et puis elle n'est pas forcément facile à domestiquer, on va dire. Ouais. Mais elle ne se laisse pas, elle ne se laisse pas avoir. On a l'impression d'être un petit peu dans la parade de séduction. Lui, il essaye, mais elle lui claque la porte au nez. Voilà, c'est un petit
peu. On va pas tout dire, mais enfin, Raymond va finir par arriver à ses fins grâce à un subterfuge. Des Raymond et des Yvonne, vous avez eu l'occasion d'en fréquenter beaucoup dans votre jeunesse en banlieue, Sandra.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il y avait des personnes âgées isolées qui ne voyaient pas leurs enfants ni leurs petits enfants. Donc effectivement, oui, j'en ai côtoyé quelques-uns, dont une qui s'appelait Madame Yvonne justement. Mmh. Donc elle est pas du tout le même caractère que celle que j'ai créée, hein. Ouais. Mais ce nom résonnait tellement en moi que j'avais envie de le reciter. Et oui, en fait, quelque part, toutes ces personnes âgées que j'ai côtoyées, c'était aussi parce que je voyais pas mes grands-parents. Ah. Donc ça me rapprochait un petit peu,
une manière de se rapprocher d'autres générations.
Oui, tout à fait.
Alors dans ce roman, on retrouve aussi pas mal de thèmes qui vous sont chers. Il y a les non-dits, il y a les différences de classe sociale, il y a aussi les mensonges dans le couple. Hein. Laurent, financier escroc, qui a caché ses malversations à sa compagne. Mais on se rend compte en fait que l'amour qui unissait les deux n'était pas peut-être aussi profond qu'on pouvait le penser. Il y a aussi toutes les difficultés quand on se retrouve maman avec trois enfants à retrouver un climat familial serein, ce qui n'est pas évident avec les deux ados, en l'occurrence Valentin qui est plutôt introverti et puis Victoire qui est sa sœur aînée qui a aussi son caractère. Et là finalement on se rend compte que les épreuves finissent par ressouder ces liens. C'est vraiment votre conviction ça ?
Oui, c'est vraiment ma conviction parce que pour avoir traversé un petit épisode de crise avec ma fille, je me suis rendu compte que ça nous avait permis aussi de réétudier le comportement de chacun et finalement de ressouder les liens malgré tout. Je pense que effectivement les adolescents quand ils arrivent à un stade où ils sont en train de devenir de jeunes adultes sont un peu perdus et c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe dans leur tête et d'appréhender leurs questions. Mais il faut, comme qui dirait, s'accrocher. Et les jours meilleurs arrivent. Et c'est vrai que les jeunes Les jeunes adultes en construction ne sont pas toujours faciles à gérer.
Victoire, il y a d'ailleurs une scène assez forte hein, dans le roman oui. où Victoire s'explique avec sa mère en disant « Maman, mais tu ne t'es jamais vraiment occupée de nous. » Et là, avec ce qui nous arrive, finalement, on se retrouve. C'est ça un message qui est fort aussi.
Alors en fait oui c'est une vision qui est différente en fonction de Johanna n'a pas forcément vu alors elle sait qu'elle a beaucoup travaillé quand ils étaient plus jeunes et qu'effectivement elle a dû les laisser après elle a pas eu cette sensation de les avoir abandonnés mais au final quand elle doit changer de quartier elle se rend compte qu'elle les connaît pas tant que ça et de l'autre côté Victoire a senti elle a tout rejeté en bloc en fait pour elle c'était un abandon le fait que sa mère doive être aussi absente elle a considéré ça comme un abandon même si elle sait quelque part c'est injuste hein. Mais vous voyez les deux positions deux opinions une position et deux opinions différentes en fonction de l'âge et de la condition de la personne qui le reçoit.
On sent aussi dans ce livre que c'est dans l'épreuve quand on touche vraiment le fond qu'on finit finalement par se retrouver soi-même hein. Johanna oui. finit par se retrouver. C'est un message aussi de votre livre ça.
Bien sûr parce qu'en fait c'est quand vous êtes tout au fond que vous pouvez rebondir parce que tant que vous n'avez pas finalement alors je n'invite personne à toucher le fond c'est pas du tout ça que je veux dire mais quand vous êtes vraiment dans cette détresse
après un divorce une maladie un deuil aussi
oui bien sûr mais complètement mais quand vous êtes dans cette détresse où vraiment vous sentez que vous arrivez vers le plus bas au fond bah c'est là qu'il faut prendre appui sur ce fond et revenir vers la surface c'est là où il faut prendre conséquence de tout
et elle va retrouver en fait la vraie Johanna hein, finalement pas la mondaine superficielle qu'elle était avant.
Bah elle s'y cachait derrière tout ça finalement, parce que c'est ce qu'on lui demandait pour qu'elle puisse vivre cette vie. Quelque part, sans le vouloir, elle s'y cachait derrière quelque chose pour être tranquille et être plus sereine. Mais finalement, ce n'est pas la vraie Johanna. La vraie Johanna est combative et elle a toujours mené de front ses différents métiers, ses enfants. Elle a tout fait pour survivre dans ce monde de brut. Hein. Ouais. Et à un moment donné, la belle s'est endormie.
Et là, elle s'est réveillée.
Elle s'est retrouvée, ouais.
Alors le mardi, Sandra, on s'intéresse aussi, après les petites histoires insolites, aux séries télévisées. Et là, il y a le choix en la matière. Et pour nous guider, eh bien, nous avons Pauline Arrey, notre experte en série. Aujourd'hui, vous allez l'entendre, une jeune femme qui, elle aussi, ne se laisse pas abattre.
Winter is coming.
Cher Winston.
Votre Majesté.
Je m'appelle Tokyo.
C'est marrant, vous parlez comme dans une série.
Tout doux. L'actu des séries.
Et bonjour Pauline.
Bonjour Vincent.
Alors aujourd'hui, Back to the 60s, retour dans les années 60 avec Funny Woman, une série comique proposée par OCS, donc Orange. Qui est donc cette drôle de femme, cette Funny Woman ?
Eh bien, il s'agit de Barbara Barker, une jeune anglaise du nord de l'Angleterre. Une fort jolie jeune femme, un peu naïve, qui décroche un prix de beauté lors d'un concours local. Oui, mais voilà. Porter la couronne et inaugurer des foires au boudin, ça ne l'intéresse pas bien. Ce qu'elle veut, Barbara, elle, c'est partir à Londres, devenir actrice, et pourquoi pas comique.
Alors j'imagine que les débuts sont pas faciles, hein, quand on débarque de sa province et qu'on connaît personne dans le milieu.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle commence par vendre des chapeaux et courir les castings de pub sans succès, car si Barbara ne manque pas d'atouts, elle a une franchise, une belle énergie et un sens de la répartie qui ne plaît pas à tout le monde. Mais tout va basculer grâce à une rencontre avec un vieil agent de spectacle sur le retour qui va l'encourager.
Je ne crois pas que nous nous soyons correctement présentés.
Je m'appelle Barbara Parker.
Parlez-moi de vous.
Je suis née à Blackpool. Et je suis venue à Londres pour devenir quelqu'un.
Quelqu'un en particulier ?
Vous êtes fatiguée, sans énergie, au bout du rouleau. Les réceptions vous laissent KO. Vous n'êtes pas populaire. Essayez vite un viande de légumines.
Oh, Jésus-Marie-Joseph. Bon, mettons-nous au travail. Il n'est pas question que nous laissions cette jolie fleur se faner, n'est-ce pas ?
Voilà, ne pas laisser cette jolie fleur. Est-ce qu'on peut dire, Pauline, que Barbara va être lancée grâce à cet agent ?
Oui, et aussi grâce à une sitcom où elle arrive à imposer son sens de l'humour, séduire peu à peu les spectateurs, les scénaristes et le directeur plutôt moraliste de la chaîne télé. Lui, il ne croit toujours pas au talent de cette starlette naissante.
En fait, que montre cette série Funny Woman, d'après vous ?
Eh bien, un peu toute la difficulté, justement, hein, pour une femme d'exercer son talent dans un monde dominé par des hommes qui la jugent trop belle pour faire rire, mais trop intelligente pour se taire. Une rébellion, en quelque sorte, hein, qui fait écho à celui de la réalisatrice Morwenna Banks, qui s'était, elle aussi, heurtée aux décideurs pour faire valoir ses scénarios à ses débuts.
Un mot sur les atouts de cette série. Qu'est-ce qui pourrait nous plaire dans cette série Funny Woman ?
Ah bah d'abord Gemma Arterton qui incarne à merveille Barbara, une sorte de Brigitte Bardot à la fois naïve et malicieuse, et puis aussi toute l'ambiance des années 60, ses mini-jupes, ses coiffures choucroutées, parfaitement reconstituées, sans oublier une bande-son que l'on a un petit peu écoutée tout à l'heure, qui est fidèle au Swinging London. Bref, de la légèreté, de l'humour, mais aussi une belle réflexion sur l'évolution des mœurs, les travers de la célébrité, mais surtout l'importance de vivre son rêve.
Funny Woman, une série pétillante en 6 épisode à découvrir dès maintenant sur OCS. Merci Pauline, notre drôle de dame qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. À bientôt.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, Funny Woman. Je ne sais pas si ce genre de série pourrait vous plaire, Sandra.
Ah oui, si, si, tout à fait. Si j'avais un petit peu de temps à consacrer aux séries, c'est effectivement ce genre de série que je regarderais.
Ouais. Vous n'avez pas le temps d'en regarder, vous êtes trop pris par votre casquette de mère de famille, d'écrivaine, de gestion d'entreprise.
Alors de mère de famille, non plus trop, puisque du coup les deux oisillons ont quitté le nid. Ouais. Oui, tout le reste me prend beaucoup de temps, mais je consacre juste, voilà, j'ai mon petit péché mignon, c'est HPI.
HPI, voilà, alors, avec sinon... Audrey Fleurot.
Oui, tout à fait. Ouais. Sinon, c'est vrai que je ne m'accorde pas beaucoup de temps. J'ai toujours la télé en fond sonore, mais je ne me concentre pas vraiment dessus. Je suis plutôt à l'écriture.
HPI, c'est drôle que vous disiez ça, parce que Arthur, le petit dernier de Johanna, votre héroïne, se révèle aussi à haut potentiel. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément un cadeau hein, d'avoir un enfant intellectuellement aussi précoce.
Non, non, je vous le confirme. Je vous confirme que c'est pas forcément c'est pas forcément facile à gérer et
mais c'est un petit garçon qui est très attachant dans ce roman, c'est comme ça que vous l'avez conçu.
Ah oui, complètement. Je voulais justement qu'Arthur laisse sa trace. Déjà parce qu'il est jeune, mais il a des réflexions qui sont dignes d'un adulte et des fois tellement pertinentes que forcément on ne peut que s'y attacher parce qu'il a l'annonce de vérité dans tout ce qu'il dit. Donc
c'est lui qui est un petit peu le côté raisonnable de la famille. Hein.
C'est le grand sage en fait.
C'est le grand sage. Alors qu'il a quoi? Il a 7 ans, je crois.
Il a 7 ans, effectivement. Ouais. Ouais.
Et il recherche un partenaire pour jouer aux échecs. C'est quand même pas mal dans sa cité HLM. Ouais.
Bah oui, c'est surtout que maintenant il va changer d'école, donc il sait pas trop s'il va pouvoir jouer aux échecs avec quelqu'un en fait.
Ouais. Il y a beaucoup de sensibilité, d'attachement dans ce roman, beaucoup de bienveillance. Je sais pas si ça correspond à votre état d'esprit. Il y a des choses de vous justement dans ce roman.
Je pense que j'y ai mis quand même beaucoup de moi.
Oui.
Ouais. La bienveillance, ouais, je pense que c'est aussi une de mes qualités. Bah, du moins, j'espère.
Oui.
J'espère que les années passant, j'ai pu faire grandir cette qualité en moi. Mais
l'injustice, oui, c'est comme ça que je pense. On sent aussi que l'injustice, c'est quelque chose que vous supportez pas non plus.
Ah ouais. Bah, je supportais pas. Quand j'étais petite, je voulais devenir avocate. Mmh. Et mon père m'a dit, mais tu pleures trop, ma chérie, pour devenir avocate, ça va être compliqué devant un juge.
Ouais.
Donc quelque part j'ai essayé à ma manière d'essayer de rétablir certaines injustices. Ouais.
On va continuer à parler de ce roman, mais dans un instant on ouvrira également ensemble une petite boîte à questions mystères. Ça sera tout de suite après notre page musicale, toujours de votre choix Sandra, et après Francis Cabrel, vous me proposez Sofia Saïdi, Femme d'aujourd'hui.
Oui, un petit peu ce que je deviens et ce que j'étais sans le savoir finalement.
Ouais.
Mais cette musique me touche énormément parce que quelque part, c'est un hymne à la femme d'aujourd'hui, dans toutes ses caractéristiques et dans toutes ses prises de position et dans la fierté de porter justement ce rôle de femme la tête haute.
La tête haute. On va écouter Sofia Saïdi, on se retrouve tout de suite après.
Y a des sons filantes qu'on voit pas, qu'elles nous mentent. Marche après marche, j'ai remonté la pente, j'ai pris les places vacantes. Marche après marche, on va jusqu'à l'impasse, il faut trouver pas sa place. Marche après marche, pour que ça passe ou ça casse, je veux pas qu'on m'efface. Jour après jour, s'est passé jusqu'à l'amour. Je me suis tenue au quai à la force des charmes. Je suis une femme d'aujourd'hui, je suis d'ailleurs ici.
Sophia et Saïdi, femme d'aujourd'hui, le choix de Sandra Martineau, écrivaine dont le dernier roman Petit Bonheur à tous les étages vient de paraître aux éditions XO. Alors, dans ce livre, Sandra, on ne cache pas aussi une certaine réalité des banlieues, hein. Bah, les trafics de drogue, les voitures brûlées, les cages d'escalier délabrées, vous en parlez dans ce roman, mais aussi des actions positives menées par les habitants, et vous donnez à la fin de votre livre des exemples en citant des associations qui essayent de faire bouger les choses, comme par exemple celle-ci.
Pour éviter à l'une d'entre nous de connaître la douleur de perdre un enfant, nous avons décidé de mener cette action. Nous avons beaucoup dérangé les trafics de drogue. Nous avons essayé de récupérer nos enfants, les enfants mineurs qui traînaient dehors.
Il y a des nuits qu'on a sorti, il n'y a personne. C'est bon, ils ont écouté parce que c'est les mamans. C'est leur maman, c'est la famille.
On a commencé le maroulou là, vraiment, il a beaucoup changé les quartiers. Tout le monde est rentré à la maison.
Mais ça me donne encore beaucoup plus de force, parce que c'est l'avenir de nos enfants.
Voilà, la brigade des Daronnes, avec la voix qu'on vient d'entendre de sa présidente Fanta Macalou, c'est extrait d'un reportage qu'on peut retrouver très facilement sur YouTube. La brigade des Daronnes que vous citez donc comme association à la fin de votre livre, quel est l'objectif en fait de cette association, Sandra?
Eh bien, c'est de faire reculer les trafics de drogue dans les cités.
Et ce sont des mamans qui se bougent pour
oui.
ça. Ouais.
Bien sûr. Et moi, je trouve que les mamans, elles ont un rôle essentiel aussi dans les cités, parce que malgré tout, ces petits voyous, ils ont tous aussi des mamans. Et c'est la voix des darons qui doit résonner pour que justement, à un moment, ils comprennent que ce qui se passe n'est pas correct. Mmh. Et je trouve admirable le travail qu'elles font pour récupérer justement les jeunes enfants qui éviter de tomber dans tous ces trafics. Parce que c'est vrai que c'est tellement tentant, hein, l'argent facile. Mais les plus jeunes ne voient pas le danger qui traîne derrière tout ça, en fait.
Vous citez d'autres exemples, hein, comme le concours Talents des Cités, hein, dont on a également souvent parlé dans cette émission. Ma cité va briller, ou des jeunes ramassent les déchets dans leur quartier pour réutiliser ce qui a pu être récupéré. En fait, vous faites quoi comme constat dans les banlieues? Alors, vous n'êtes pas sociologue, hein, Sandra Martineau, vous n'êtes pas ministre de la ville, mais d'où vient ces clichés? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Enfin, d'où vient cet ennui? Est-ce qu'on peut dire que c'est la délinquance, ça vient surtout de l'ennui en fait de ces jeunes? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça aussi facilement?
Alors, la délinquance, elle vient de beaucoup de choses. Elle vient du regard qu'on porte sur ces jeunes, déjà à la base, qui est négatif. Donc pourquoi iraient-ils se consacrer à quelque chose de positif quand de toute façon, ils savent très bien qu'à l'extérieur, on les regarde toujours négativement. La délinquance, elle vient de l'ennui aussi, comme vous le dites. Ça manque d'infrastructures dans les cités. Les jeunes ne savent pas quoi faire. Donc voilà, c'est... On se tourne vers des choses qui peuvent être faciles. Et... la délinquance, elle vient aussi peut-être de l'abandon de beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont dépassés, donc qui n'ont plus envie d'intervenir. La violence, certains enfants vivent aussi de la violence à l'intérieur des familles. Donc quelque part, être soumis à cette violence, c'est aussi la faire ressortir dans la rue. Et ils ont besoin de s'exprimer. La cité, pour moi, est un lieu de haut potentiel. Il y a beaucoup d'énergie qu'on utilise à mauvais escient. En fait, on se le rend compte à travers toutes ces initiatives, parce que là, c'est vraiment une infime partie de ce que j'en ai décrit quelques-unes, alors qu'il y en a des centaines. Il y a des personnes qui croient vraiment en la cité et qui investissent de l'énergie pour justement faire sortir tous ces potentiels de façon plus visible. Parce que quand on donne sa chance à quelqu'un, normalement ces chances-là ne sont pas gâchées. Parce qu'on connaît la valeur de la chance.
Sandra Martineau, on a une tradition dans cette émission. C'est une petite mise en boîte, un petit exercice obligé pour nos invités. Mm-hmm. Et on va tout de suite l'ouvrir ensemble.
La boîte à tout doux.
Alors, dans les mains, je vous le montre, j'ai un petit coffret en bois. À l'intérieur, il y a des cartes, au dos de chacune, une question pour mieux vous connaître. Le principe, il est simple. Hein. Je vais battre ce jeu. On va tirer quelques cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Bon, vous avez droit à un joker, hein, si ça vous inspire pas. Mais de toute façon, il n'y a absolument rien d'indiscret. Alors, je remue le jeu de cartes et vous me dites si vous êtes prête pour la première.
Allez, top,
on y va. Je retourne la carte. Les raisons pour lesquelles on peut compter sur vous.
Parce que je suis toujours là.
C'est-à-dire.
C'est une particularité hein, chez moi. Je veux dire, j'entendais que très rarement mon prénom quand j'étais enfant, parce que quoi qu'il advienne, les gens n'avaient pas besoin de m'appeler. Je devinais à l'avance les soucis ou les besoins j'étais toujours là en fait.
Ce pouvoir d'empathie finalement de comprendre.
Oui, complètement. Ouais. Je comprenais beaucoup de choses, donc les gens n'avaient pas besoin forcément de. Je vous dis, j'entendais très rarement mon prénom parce que j'étais toujours près des gens. Donc
vous étiez la bonne copine qui était toujours prête à rendre service finalement.
Oui, complètement.
Un peu trop même peut-être.
On m'a effectivement appris à dire non aussi à un moment donné. Parce que je disais oui même quand je me mettais dans l'embarras. Donc, j'ai appris à dire non, mais. J'ai cette empathie qui fait que naturellement, hein, je vais. Mais maintenant, je mesure. Je mesure aussi le taux d'aide. Hein, ne plus me mettre dans l'embarras pour aider quelqu'un. Ouais. Mais je vais naturellement vers les gens.
Et aider sans contrepartie, enfin sans nécessairement avoir une contrepartie. C'est gratuit.
Juste un merci.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal.
Allez, je continue de battre le jeu de cartes. Vous m'interrompez quand vous voulez.
Stop.
Alors, on y va. Est-ce que vous chantez dans la voiture ou sous la douche ?
Les deux.
Et alors, qu'est-ce que vous chantez justement ?
Eh ben, je chante de tout, mais il y a des chansons qui me vont beaucoup moins bien que d'autres. Hein.
Oui, sous la douche ou dans la voiture ?
Les deux. Ouais. Les deux, mon capitaine. Ouais. Il y a certaines intonations que je sais faire correctement, mais il y en a d'autres. Faut pas être à côté de moi, sinon je brise le cristal. Hein.
C'est quoi, par exemple ?
Non, nous n'irons pas plus loin. Je fais le 50-50, vous l'appelez à un ami, mais je ne dévoilerai pas les chansons
Vous chantez souvent.
Oui, j'aime bien chanter. Comme j'aime bien danser aussi. Ouais.
Ça détend, ça.
Et puis ça met de l'énergie quelque part. Ouais. Ça crée des ondes positives. La chanson, la danse, ce sont des moteurs. Des choses. Oui, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Allez. Façon, je commence toujours le matin par de la chanson. Dans la salle de bain, j'ai toujours de la musique.
Toujours de la musique. Allez, on va terminer une dernière question. Je continue de brasser le jeu de cartes. Vous m'interrompez quand vous voulez.
Stop.
Et ben justement, par quoi vous aimez commencer la journée ? Ça, vous l'avez déjà répondu, on peut dire, par chanter. Hein. Alors, je vais peut-être prendre une autre question si ça ne vous dérange pas.
Du tout.
Allez, je tire la suivante. Le voyage que vous aimeriez bien faire ?
Le tour du monde.
Oui. Tout simplement. Le tour du monde.
Ah oui, je ne suis pas exigeante, mais c'est juste un tour du monde. Pour aller à la rencontre, découvrir d'autres civilisations. J'ai déjà pas mal voyagé dans ma vie, mais vraiment parcourir pour pouvoir justement soupeser et évaluer toutes les différences entre ma vie, la leur et me nourrir de ce que je découvre au fur et à mesure. Et je pense que sur toute la planète, il y a des choses à prendre. Mmh.
Une mode de pensée unique, c'est ce que vous voulez dire.
Non, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mmh. Découvrir comment les gens vivent, recueillir la moindre des petites choses qui peut les rendre heureux. Mmh. Et parce qu'effectivement, il y a des toutes petites choses qui rendent les gens si heureux.
Ouais.
Et c'est ça qui est extraordinaire.
Et ce voyage, vous le commenceriez par quel pays? Vous avez déjà une idée?
Non, ça non. Par contre, j'ai pas du
Allez,
tout réfléchi.
On fait tourner le map monde et puis on met le doigt dessus.
Ouais, je pense que je commencerai comme ça, effectivement. Ouais.
J'aime bien
laisser la place au
hasard. Ouais. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte et puis on la réouvrira demain pour notre prochain invité. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Et donc là, cette année, quand j'ai vu dans le formulaire IXO le nouveau livre de Sandra Martineau, bah, je me suis jetée dessus. Voilà, c'est le nouveau livre de Sandra Martineau, je ne me pose plus de questions, je veux le lire. Donc avec ces mêmes attentes, un livre qui peut paraître un peu léger, mais qui ne l'est pas, avec des sujets plus importants que ce à quoi on peut s'attendre, en fait, et avec une touche d'humour, voilà.
Voilà, l'enthousiasme d'une blogueuse littéraire hein, qu'on peut retrouver sur YouTube. Comme quoi, vous avez vos fans, hein, Sandra.
Oui, complètement, je suis toute émerveillée.
Et c'est vrai que votre avant-dernier roman a changé aussi un peu les choses. Je pense que vous avez peut-être renoué avec un autre lectorat.
Oui, complètement. Oui, quelque chose de différent et j'en avais besoin aussi. Mmh. J'avais besoin de ressentir de la bienveillance, j'avais besoin de voir les gens avec les yeux qui pétillent, j'avais besoin de rigoler avec eux. Mmh. Et voilà, je pense que l'objectif est atteint. Mmh. Et pour mon plus grand bonheur, hein, parce qu'il n'y a rien de tel que de discuter avec les gens, de rigoler. J'adore faire des salons pour ça, c'est rencontrer les lecteurs et puis pouvoir échanger, discuter avec eux. C'est parce que finalement le travail d'écrivain c'est un travail qui est assez solitaire. On est derrière notre carnet, notre ordinateur, on compose une histoire en espérant qu'elle puisse plaire au plus grand nombre. Mais une fois qu'on les rencontre, ces lecteurs, et une fois qu'on peut échanger avec eux, je vous dirai pas le nombre de paquets de mouchoirs que j'ai usés depuis cet avant-dernier roman.
Ouais.
C'est systématiquement j'en ai un à côté de la main parce que on vient toujours à pleurer à un moment donné.
Au fond, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur ou lectrice retienne de ce petit bonheur à tous les étages?
Que ça lui a fait du bien.
Oui, tout simplement.
Tout simplement.
Oui, d'aller au-delà des préjugés aussi, tout simplement.
Ah oui,
aussi.
Par contre, oui, tout à fait. Mais j'ai pas cette prétention-là. Hein. Mais concrètement, oui, j'aimerais bien que ce roman puisse ouvrir les yeux aussi. Et finalement, que les gens prennent l'initiative d'aller vers l'autre pour le découvrir. Parce qu'il n'y a rien de tel. Je veux dire, j'ai écrit ce roman parce que finalement, c'est à travers l'autre aussi qu'on se découvre soi-même.
Voilà. Un prochain roman sur les rails, vous avez déjà une idée?
Ah oui, mais il n'y en a pas qu'un.
Et toujours dans la même veine?
Ah, toujours dans la même veine, je suis partie là, donc je crois qu'on n'arrête plus pour l'instant.
On n'arrête plus pour l'instant. En attendant, petit bonheur à tous les étages, je vous le recommande vraiment parce qu'il se lit très facilement, il y a beaucoup d'humour, de sensibilité et comme vous le dites, une façon de lutter contre les préjugés. C'est paru chez IXO. Un grand merci Sandra Martineau d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Pierre Samanos et Nathan Faure qui ont agité avec bonheur les manettes de la régie technique. Demain, c'est Bérangère qui me succédera avec bonheur aussi dans cette émission. Elle aura comme invitée Sandra Caquet. Elle est chanteuse pop, rock et jazz, une belle occasion de découvrir ses multiples talents musicaux avec la sortie de son dernier album qui s'intitule Scars. Nous, on va se quitter en chanson rapidement avec I Am Petit Frère, c'est votre dernier choix. Un mot rapide sur cette artiste, Sandra?
Oui, un groupe qui a marqué l'histoire du rap avec des vérités finalement qui sont entre les lignes. Hein. Trop exposé, ça devient tellement banal.
Ouais.
Voilà. Cette violence qui.
Petit frère, on se quitte avec I Am. Bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
C'est pourquoi ils s'obstinent à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était camin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides, alors on fait le caïd de ton époum, qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,